Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier.
Alors au sommaire des enjeux internationaux aujourd'hui, un tour d'horizon régional sur l'Éthiopie, le Soudan et la Somalie.
Oui, et c'est vrai que l'Éthiopie est au centre. Pour preuve, cette visite d'une délégation érythréenne à Addis Abeba il y a deux jours, impensable il y a quelques mois, c'est un des signes du changement accéléré voulu par le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed depuis le début de l'année. Bonjour René Lefort.
Bonjour.
Et merci d'être au téléphone avec nous. Vous êtes chercheur indépendant spécialiste de la Corne de l'Afrique. Alors c'était vraiment le tapis rouge pour la délégation érythréenne à Addis Abeba mercredi. Alors que les deux armées se font toujours face sur la frontière, ce rapprochement est la concrétisation rapide de l'installation, non moins rapide, d'Abiy Ahmed aux commandes du pays comme Premier ministre. Abiy Ahmed, donc réformateur pressé, non sans risque. L'attentat à Addis Abeba le week-end dernier l'a montré, mais qui semble déterminé à mener de front l'ouverture intérieure et le repositionnement régional de l'Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, mais enclavé, sans accès à la mer, puisque c'est précisément l'Érythrée qui occupe la côte nord. Cette ouverture n'est donc pas sous-entendue dans une corne de l'Afrique qui sert de pont, voire d'arrière-cour aux États du Golfe et qui fait face au Yémen. Alors la réforme éthiopienne changera-t-elle le visage de l'Afrique? Peut-être. En tout cas, avec cette visite, René Lefort, l'Éthiopie et l'Érythrée mettraient fin pour de bon à 20 temps de conflit, alors en moins d'un mois, après la proposition d'Abiy Ahmed, c'est très rapide quand même.
Oui, si vous voulez, deux choses. La première, c'est que cette visite, cette tentative de normalisation entre Éthiopie et Érythrée, c'est quelque chose qui couvrait depuis plusieurs mois. Le précédent Premier ministre, Hailemariam Desalegn, avait déjà lancé une proposition que Isaias Afwerki, le président érythréen, n'avait pas saisi. En fait, dans la coulisse, les Américains et l'Arabie Saoudite, leur allié régional, plus l'Égypte, etc., travaillaient pour arriver à cette normalisation.
Et alors, qu'est-ce qui a motivé la proposition d'Abiy Ahmed? Parce que c'était quand même, dès son discours d'investiture, une des premières propositions qu'il a faites, et il a fallu que quelques jours pour que Isaias Afwerki, du côté érythréen, accepte cette proposition.
Je pense que il y a des raisons de politique intérieure qu'on néglige énormément. Moi, je vais régulièrement à Mekelle, la capitale du Tigray, et là, si vous voulez, depuis 2 ou 3 ans, j'ai entendu un changement radical de discours qui était « il faut absolument qu'on arrive à s'entendre avec l'Érythrée, le blocage de la frontière étouffe notre province, elle ne réussit pas à croître économiquement comme le reste du pays ». Il faut donc absolument arriver à un accord avec Isaias en Érythrée. Et la question des territoires à rendre n'a aucune importance. Rendons ces territoires, de toute façon, ils ne présentent pas membre d'un début d'intérêt. Donc je pense que Yamamoto, ensuite le sous-secrétaire d'État américain pour...
Donald Yamamoto,
s'est rendu, oui. Oui, s'est rendu à Asmara.
En Érythrée.
Donc, en Érythrée. Donc, il y avait déjà des tas de choses. Alors, pourquoi est-ce que Isaias aura accepté maintenant ce qu'elle a toujours refusé, c'est à savoir que commencer à négocier avant que les, entre guillemets, territoires occupés par l'Éthiopie à la suite de l'arbitrage rendu en 2000, il a accepté de négocier. Je pense que lui est dans une position très difficile. Il a maintenant des accords avec toute une série de pays arabes, c'est-à-dire le groupe Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Égypte. Il a donc un soutien de leur part. Il leur a fait des concessions militaires pour qu'ils puissent avoir des bases en Érythrée pour se battre au Yémen. Et je pense que la crise économique en Érythrée continuant et les jeunes fuyant toujours autant, on peut imaginer qu'il aurait fait quelque chose qui semblait inévitable, c'est-à-dire devenir raisonnable.
Alors, inévitable du côté érythréen et encore une fois du côté éthiopien, à quel point c'est lié justement, puisque vous dites que c'est des négociations ou une ouverture qui avait été lancée avant Abiy Ahmed, à quel point c'est lié à son arrivée à lui qui a repris tous les points de l'accord d'Alger de 2000, prêt à les appliquer, prêt à rendre notamment la ville de Badme, c'est un point de crispation avec certains habitants.
Écoutez, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est il y a quelques jours, il y a une délégation des Émirats Arabes Unis qui est venue en Éthiopie et qui a lâché 3 milliards de dollars, tout à coup. Bon, Alors que l'Éthiopie fait face à une crise de devises étrangères absolument catastrophique, puisqu'ils n'ont que quelques semaines de réserve en tout et pour tout d'importation. Donc je pense que les facteurs économiques qu'on oublie ont été absolument décisifs. C'est-à-dire que le deal a été, écoutez, vous normalisez avec l'Érythrée, hein, et nous, on vous aide financièrement. Ça, c'est la première raison. La deuxième, et donc, c'était la volonté des populations du Tigray d'arriver à règlement. Oui. Et la troisième raison, je pense, c'est que, aussi longtemps que le conflit avec l'Érythrée restait, le Front populaire de libération du Tigray gardait une position importante, et l'armée aussi gardait une position importante. Or, l'armée, elle est, je dirais pas qu'elle est contrôlée, mais enfin, l'influence des Tigréens dans le commandement militaire est énorme. Et je pense que la normalisation avec l'Érythrée est aussi un moyen pour Abiy de réduire l'importance de l'armée dans la politique intérieure éthiopienne. Abiy Ahmed, là, en quelques semaines, a déboulonné, je dirais, une quantité phénoménale de dirigeants tigréens.
Donc, ce serait un moyen de faire d'une pierre deux coups, on peut dire, cette normalisation avec l'Érythrée. Alors, quelle pourrait être, selon vous, la prochaine étape, c'est-à-dire le retrait des troupes éthiopiennes le long de la frontière, la restitution de certaines localités?
Je suis prudemment optimiste. C'est-à-dire que je ne vois pas quel est l'intérêt maintenant de Isaias Afwerki de pas lâcher quelque chose. Hein. Les Éthiopiens ont lâché l'essentiel. C'est ce qu'ils disent, d'accord, on se retire des territoires occupés, entre guillemets. Bon, je pense que l'intérêt d'Isaias est lui à son tour de lâcher quelque chose, c'est-à-dire de dire, bon, écoutez, on normalise les relations et surtout, on vous ouvre le port d'Assab, hein, qui est le débouché naturel de tout le nord de l'Érythrée, qui était d'ailleurs jusqu'à cette guerre. Mmh. Et ça serait aussi un plus économique pour l'Éthiopie. Donc, raisonnablement optimiste, mais avec Isaias, on ne sait jamais ce qui peut se passer.
Et du point de vue économique, qu'est-ce que pourrait espérer l'Éthiopie? C'est vrai, en grave difficulté financière, mais avec un fort potentiel et sans aucun débouché maritime, ce qui est une spécificité dans la région quand même.
Oui. Ceci dit, bon, on va pas imaginer quand même, comme certains Éthiopiens imaginent, que l'Éthiopie va retrouver la souveraineté sur Assab. Mais simplement, elle pourrait y retrouver un accès extrêmement facile, comme elle l'avait avant la guerre de 98-2000. Ça, c'est donc le premier aspect des choses. Le deuxième étant celui que j'ai indiqué, c'est-à-dire l'afflux de capitaux arabes pour enfin sortir l'économie d'une crise dans laquelle le miracle économique éthiopien, ça a été quand même un miracle en trompe-l'œil. Il est vrai et faux. Il est vrai parce qu'il y a eu une croissance considérable. Il est faux dans la mesure où il a été financé par des emprunts à l'étranger et par la planche à billets. Et maintenant, ce modèle-là, il est au bout du rouleau, il s'effondre.
Et si on parle géopolitique ou géoéconomie, puisqu'on voit aussi un rapprochement entre l'Éthiopie et l'Égypte, est-ce qu'on pourrait dire que cette région est en train de changer de main d'une certaine manière ou de passer sous l'influence des pays du Golfe?
Je dirais pas qu'elle est en train de passer sous l'influence des pays du Golfe, je dirais qu'elle est en train de passer sous l'influence de la péninsule arabe au sens large, l'Égypte et les États-Unis. Les États-Unis ont, semble-t-il, joué un rôle clé dans l'ascension de Abiy et dans la vague de réformes qu'il a lancée. Je pense que ça pourrait être un virage fondamental pour l'Éthiopie. Alors que l'Éthiopie avait toujours jusqu'à maintenant, que ce soit avec le Négus, que ce soit avec Mengistu, que ce soit avec Meles, essayé d'avoir une politique extérieure équilibrée, hein, et de ne pas être afféodé, hein, à telle ou telle grande puissance, je pense que là, à la fois par idéologie libérale, néolibérale, diront ses adversaires, et en même temps par contrainte économique, l'Éthiopie est vraiment prête à se rapprocher énormément des États-Unis, ce qui n'était pas envisageable encore il y a quelques années.
Quand je parlais de influence des pays du Golfe, est-ce qu'avec ces investissements saoudiens en Éthiopie, est-ce qu'on n'a pas, disons, plutôt un jeton saoudien en plus dans la balance? Quand je parle de balance, c'est la rivalité saoudo-qatari qui s'est exportée dans la Corne de l'Afrique avec une sorte d'axe Qatar-Turquie en Somalie-Soudan et puis les autres pays plutôt affiliés à l'Arabie Saoudite.
Ça, c'est la grande division. Hein. C'est la grande division qui joue au Soudan, qui joue au Sud-Soudan et qui joue dans les différentes Somalies. En Éthiopie, jusqu'à maintenant, cette division entre Qatari et Turc d'un côté, Arabie Saoudite et Émirats de l'autre, n'a pas encore eu d'impact.
Et de ce point de vue-là, est-ce que on peut attendre qu'il en ait un? Ou par exemple, on voit qu'il y a des pourparlers de paix qui reprennent de manière très accélérée au Soudan du Sud, sachant qu'ils ont été demandés par l'Éthiopie, qui préside l'IGAD, l'organisation régionale, et que c'est Abiy Ahmed qui a organisé cette rencontre entre les deux belligérants tout récemment à Addis Abeba. Là encore, implication régionale plus importante?
Là, si vous voulez, il est clair que si l'Éthiopie réussit à se remettre en ordre sur le plan intérieur, elle va retrouver un rôle primordial dans la Corne de l'Afrique. Hein. Or, elle avait perdu la main ces dernières années. Elle avait perdu la main au profit, justement, des pays arabes.
Pour un pays qui, dont on prévoit 8,5% de croissance, 104 millions d'habitants, quand je disais changer la face de l'Afrique, quand même, ce serait un changement majeur pour l'ensemble du continent.
Ça serait un changement majeur pour l'ensemble du continent, ça serait surtout un changement majeur pour l'Éthiopie, parce que, imaginons que quelque chose qui ressemblerait à une démocratie s'installe en Éthiopie, ça serait réussir la révolution qui a été manquée en 1974 avec la chute de Haïlé Sélassié, et en 1991 avec la chute de la junte militaire de Mengistu. Est-ce que on ira jusque-là? Est-ce qu'on n'aura pas tout simplement, ce qui est mon hypothèse, une redistribution du pouvoir et des richesses plus équilibrée entre les différentes élites ethniques, c'est-à-dire un pouvoir qui resterait fondamentalement élitiste? Bon, l'avenir nous le dira.
L'avenir nous le dira, en tout cas, pour parler sur le barrage sur le Nil le 3 juillet. Merci beaucoup René Lefort, chercheur indépendant sur la Corne de l'Afrique, et on reverra à vos écrits sur le site Open Democracy. Merci.